Bien, eh bien, bonsoir à toutes et à toutes. On peut démarrer ? On peut démarrer. Bonsoir à toutes et à toutes. Nous allons ce soir débattre d'une question fondamentale. Et les personnalités qui sont autour de moi, autour de cette table, ces deux tables, vont tenter devant vous tous d'y répondre. La question est, pourquoi les méchants sont-ils toujours intelligents ? Le texte de présentation évoque quelques héros négatifs, bien sûr, de la littérature ou du cinéma populaire, tous brillants d'une intelligence que l'on s'accorde généralement à qualifier de démoniaque. Vous remarquerez en passant qu'on parle rarement d'une stupidité démoniaque. Vous remarquerez en passant aussi qu'on parle rarement d'une intelligence angélique. Le texte ajoute, je crois reconnaître dans le texte la plume acérée d'Hugo Balagamba, on peut s'interroger sur la raison d'une représentation négative de l'intelligence. Renversons la proposition et on peut s'interroger aussi sur les raisons d'une représentation positive de la méchanceté. En tout cas, aux exemples déjà cités, on peut ajouter une cohorte d'abominables génies. Car, à l'inverse, un méchant complètement idiot ne serait ni très efficace, donc pas très intéressant, ni photogénique, si j'ose dire, donc pas narrativement prenant. Encore qu'il peut être ridicule. Je sors du domaine de la science-fiction pour évoquer des méchants particulièrement stupides dans la série Zorro, ainsi que son très intelligent héros, très positif, effectivement. Avant de vous présenter un certain nombre de visages que généralement on ne présente plus autour de moi, je dois à la vérité d'avouer que ce n'est pas moi qui les ai choisis. Je m'interroge donc sur les raisons d'une telle sélection. Mes voisins ici présents ont-ils été sélectionnés comme spécialistes de l'intelligence, hypothèse positive, où l'on reconnaîtrait à nouveau non la plume, mais la bienveillance d'Hugo Balagamba déjà nommé, ou choisis comme parfaits connaisseurs de la méchanceté, hypothèse non dénuée d'un certain cynisme. Je vous laisserai in fine le soin d'en décider. Vous remarquerez enfin que notre groupe, bien que restreint, est exclusivement masculin. Privilège de l'intelligence ou de la méchanceté ? Allez savoir. Et barbu, ou presque. Quoi qu'il en soit, j'ai le plaisir de vous présenter un certain nombre de visages que généralement on ne présente plus. Par ordre alphabétique, oui, c'est ça, effectivement, Joanne Elliott, qui depuis La Lune seule le sait, pratique savamment l'uchronie d'ambiance steampunk, comme le dit sa page Wikipédia. Bizarrement d'ailleurs, donc, sur sa page Wikipédia, il a un ami, une espèce de manie facebookoïdale, mais c'est la première page Wikipédia que je vois où quelqu'un déclare avoir un ami. Mais il en a au moins un, dit-il. En tout cas, il ne pratique pas seulement l'uchronie d'ambiance steampunk, puisque France Atome ne se situe pas dans cette ambiance-là, et puisque Involution, récemment parue, brasse une intrigue cataclysmique à la couleur brésilienne. Mais il ne dédaigne pas pratiquer la fantaisie urbaine et le polar, y compris en direction de la jeunesse. Léo Henry fait aussi partie de ces écrivains issus du jeu de rôle et de la bande dessinée. Mais moi, personnellement, ce que je préfère, ce sont ces nouvelles qui décrivent des univers complètement décalés, nouvelles merveilleusement, mais très, très rigoureusement écrites. En particulier, celles qu'il a publiées, je suis bien placé pour le savoir, dans la revue Fiction, ou celles qui figurent dans l'anthologie des Utopiales de cette année. Il écrit également des romans, et je citerai aussi Le Casse du Continuum, récemment paru chez Folio SF. Enfin, last but not least, Roland Lehoucq, le président des Utopiales lui-même, nous fait l'honneur de nous rejoindre. Astrophysicien au CEA et enseignant à Polytechnique, il est spécialiste de vulgarisation scientifique. Mais plutôt que d'écrire de la science-fiction, encore qu'il l'ait fait, entre autres en collaboration avec Claude Eken dans Mission Caladan, il y traque la science dans la science-fiction. L'exemple le plus connu étant Faire de la science avant Star Wars, Faire de la science avec Star Wars, dont il vient de me dire à l'instant qu'il était épuisé, mais qu'il allait sans doute ressortir en version numérique, si je ne me trompe. Alors, messieurs, à votre avis, les méchants littéraires sont-ils toujours intelligents ? Et si oui, pourquoi ?
Une idée, non, c'est beaucoup dire. Une remarque, J'ai pas l'impression qu'ils sont justement toujours tous intelligents. Alors évidemment, ça vaut mieux si on veut faire progresser une intrigue. Mais enfin, quand on y regarde de plus près, alors, ça interroge quand même la notion d'intelligence. Parce que, tu évoquais tout récemment Star Wars. La figure emblématique du méchant, donc Dark Vador, moi, me semble pas d'une intelligence redoutable. L'empereur est très, très intelligent derrière lui. Mais en tant que figure du mal, Vador, même une sorte de type assez monomaniaque, qui a d'énormes moyens à sa disposition. Enfin, je veux dire, il peut construire l'étoile noire, etc. Sauf que la première coalition venue de Pecno avec un vieux vaisseau poubelle, elle lui fout en l'air. C'est pas un signe de grande intelligence pour moi. Je veux dire, quelqu'un qui aurait ces moyens-là, ça aurait pas dû se passer comme ça. Donc Vador, en plus, il y a quoi ? Il est juste intéressé par la recherche de sa filiation. Le reste. Donc voilà, quelqu'un qui serait a priori une des grandes figures emblématiques du mal dans les histoires qu'on aime, bah déjà je trouve que ça ne correspond pas vraiment à la réalité. Ensuite, blague à part, effectivement, si on s'amuse à mettre en scène un héros et qu'on lui fait affronter quelqu'un de trop bas de plafond, enfin oui. Pardon, je suis très fatigué. Vous comprenez bien que l'intérêt du livre s'en trouve vite limité. Donc, par définition, il vaut mieux lui donner une certaine intelligence. Ce qui pose ensuite un problème, enfin, du moins pour ce qui me concerne, là, je ne vais pas parler au nom de mes petits camarades, je ne me permettrai pas, ce sont les limites de ma propre intelligence. Parce que bien souvent, mes personnages intelligents le sont bien plus que moi dans la réalité. Et il faut que je puisse rendre compte, faire croire au lecteur que moi-même j'arrive à comprendre tout ce qu'ils disent. Ce n'est pas souvent évident.
Et tout ce qu'ils font.
Exactement, encore plus.
Et tout ce qu'ils font, ce qui est bien plus. Star Wars, Laurent.
Oui, c'est vrai que c'est peut-être le méchant, c'est peut-être quand même l'empereur. C'est un méchant qui tire les ficelles, donc c'est un méchant qui est derrière. Vraiment, évidemment, Dark Vador et son bras armé, mais c'est l'empereur qui, lui, vraiment, est malin. Lui, on sent qu'il est intelligent, il manipule les gens, il fait des choses, même si c'est pas lui qu'on retient le plus, évidemment, c'est Dark Vador, évidemment, qu'on retient, c'est Dark Vador. Mais c'est vrai que d'avoir un méchant intelligent, c'est important, parce que ça magnifie les héros, parce que si les héros, ils doivent vaincre des méchants idiots, il n'y a pas de... à vaincre sans gloire, on triomphe... enfin, t'en vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Et puis, deuxièmement, un méchant qui serait idiot, il y a une sorte de darwinisme du méchant, c'est-à-dire, si le méchant est trop idiot, il se fait éliminer direct, donc il n'est plus là. Il se reproduit pas, il n'y a pas de méchant à son niveau. Enfin bref, à la fin, il n'y a plus de méchant. Donc, il faut que le méchant ait un minimum de tenue, sinon la simple évolution va l'éliminer directement. Alors que le héros, lui, il peut être assez bêta. Finalement, c'est le héros, donc lui, il est désigné. Enfin, le doigt de Dieu l'a touché et il fait ce qu'il veut. De toute façon, il gagne à la fin parce que c'est le héros, évidemment. Donc, tout va bien pour lui. Alors que le méchant, lui, pour exister, il faut mieux qu'il se fasse remarquer et il se fait remarquer durablement s'il est un peu malin. Et de ce point de vue-là, je pense que l'empereur est assez réussi. Enfin, c'est quand même vraiment, il manipule bien les gars, il fait des trucs. Enfin, c'est vraiment, je trouve qu'il est pas mal, l'empereur, pour ça.
Léo, une idée là-dessus ?
Sur Star Wars ?
Peut-être pas sur Star Wars en particulier, mais sur ce que vient de dire Roland.
Non, alors, moi j'ai une théorie, parce que j'aime bien les théories, mais qui a à peu près rien à voir avec Star Wars, qui serait une théorie d'ordre théologique.
Aïe, aïe.
Alors je vais l'introduire.
Allons-y.
Et vous m'arrêtez hein, quand vous en avez marre. Non, j'ai juste après avoir pris connaissance de l'existence de cette table ronde, je suis tombé sur une brève de comptoir dans laquelle, voilà, donc ça commence de haut de volée, dans laquelle un usager d'un comptoir dit le monde est tellement con, on dirait que c'est moi qui l'ai fait. Mais en même temps, voilà, comme souvent dans les brèves de comptoir, c'est relativement, enfin, il y a quand même un sens assez intéressant à ça, c'est que je soupçonne le fait de, comment dire, l'obsession du mal intelligent sert à résoudre un problème logique qui est que si on imagine que le monde fonctionne selon une intention, que la personne derrière cette intention est infiniment bon et infiniment puissant, la question de la théodicée, c'est pourquoi est-ce que le mal existe ? Et une des réponses possibles à l'existence du mal, en fait, voilà, donc de la méchanceté, malgré cette situation qui est posée comme un fait acquis, c'est il faut que le mal puisse tenir le choc contre ce héros qui est quand même relativement balèze posé dès le départ. Et du coup, Satan. Voilà. Je vous remercie de votre attention.
Ah, c'est bien, ça fait court.
Diable. Les méchants intelligents. Cette question, en fait, implique une question préliminaire qui est pourquoi y a-t-il toujours dans le type d'imaginaire qui nous occupe ici des méchants, obligatoirement ? Pourquoi doit-on avoir des méchants et des gentils ? Je pense, par exemple, à tout ce qu'a écrit Ursula Le Guin, où, dans la plupart des cas, il y a des gens qui sont en opposition sur un certain nombre de choses, appuyés sur un certain nombre de principes ou un certain nombre de réalités, mais il n'y a pas fondamentalement de méchants assumés comme tels ou de gentils, entre guillemets, assumés comme tels. Il y a peut-être une exception, c'est dans Le nom du monde des forêts, où effectivement les petits habitants de cette planète forestière sont en prise, alors peut-être pas à un méchant intelligent, mais à une agression collective d'une invasion d'une autre planète, de gens qui fondamentalement ne voient que leur intérêt, exploitent effectivement cette planète, et sont-ils méchants? Je ne sais pas. En tout cas, ils se conduisent exactement comme tels. Et ils sont peut-être pas si intelligents que ça, parce qu'en dernière analyse, en gros, ici, la branche sur laquelle ils sont assis, c'est pour Le nom du monde des forêts, bravo, comme, c'est assez joli, parce qu'ils détruisent un monde qu'ils exploitent. Donc un jour, il n'y aura plus rien à exploiter. Donc ils sont intelligents à court terme, mais sûrement pas à long terme.
Ouais. Il ne me semble pas... Vous avez peut-être trouvé des contre-exemples, mais qu'il y ait d'ailleurs de figures de méchants simplement motivées par la pure méchanceté. En fait, l'intérêt, on finit toujours par comprendre à un moment dans nos histoires, ils ont leur motivation, leur point de vue. Leur point de vue se défend. Ce n'est pas le nôtre, ce n'est pas celui du héros. Encore, ça peut être le nôtre parfois. Un méchant intéressant et d'autant plus intelligent, il construit son action, son raisonnement sur une réflexion qui lui est propre, sur un point de vue particulier. J'essaye d'éviter d'être trop manichéen ensuite. J'ai jamais utilisé de héros qui serait uniquement une force diabolique sans autre motivation que d'être une force diabolique. Et ça existe peut-être, dans d'autres exemples de la littérature, mais avec un intérêt, à mon avis, limité.
C'est un principe de base de la fantasy, quand même, d'avoir un méchant.
Ah, mais c'est vrai, j'écris pas de fantasy. Donc c'est pour ça que je sais pas.
Effectivement, oui, j'étais en train de me dire que c'est peut-être plus fréquent dans la fantasy, parce qu'au fond, dans la fantasy, on peut trouver des méchants non motivés. Ils sont méchants parce qu'ils sont méchants. Parce que en dehors de ce domaine-là, au fond, qu'est-ce qui peut justifier la méchanceté ? L'intérêt ? Le vice, mais bon, on rejoint ce qu'on vient de voir, mais je ne vois pas tellement d'autres motivations qui pourraient justifier la méchanceté.
Il peut y avoir des fois, je fais un aparté scientifique.
Excusez-moi, oui, oui, oui.
Place. Ça, j'espère que ça vous fera rire à la fin, mais au début, ça va commencer un peu raide. Bon, alors commençons.
Ah, ça y est, il arrive.
Il peut y avoir des raisons scientifiques au mal. Tu vas voir comment ça se passe. Alors, l'analyse est la suivante. Quand une tartine de beurré tombe, elle tombe du côté beurré sur le sol, ce qui est toujours fâcheux, évidemment. Et on peut se demander, quand on prend une tartine beurrée sur le bord d'une table, je la fais tomber, toujours là. Alors là, elle est un peu grande, cette tartine, il faut reconnaître, mais quand je la fais tomber, elle est tombée du côté beurré. D'accord ? Là, le beurré, c'est ça le beurré, vous avez vu, je la refais tomber, elle retombe du côté beurré. Alors, dites, bon, très bien, ok, je vais changer de table. Prendre une table plus haute, une table plus basse. Vous pouvez étudier physiquement, ça a été fait, la chute des tartines beurrées, en fait, des rectangles avec un côté haut et un côté bas, vous appelez le beurre et sans le beurre, et ça tombe d'une certaine hauteur. Et vous vous demandez, est-ce que ça tombera toujours du côté beurré ? Alors non. Si la table est assez haute, ça tombera, ça fera plus d'un tour et ça tombera du côté pas beurré. Bon, bah, très bien, il suffit de prendre des tables très hautes. Mais est-ce que c'est pratique pour moi, humain, de prendre des tables hautes ? Ben non, évidemment, c'est un peu idiot. Parce que, après, je vois la table et là, j'ai envie d'être assis, que ça va m'arrive. Et alors, on constate que la taille des tables, c'est à peu près la moitié de la hauteur des humains. À peu près. Et on se dit, oui, mais il n'y a peut-être pas que des humains dans l'univers, on est en science-fiction. Il y a peut-être des bipèdes très grands. Alors, on peut réfléchir aussi à cette chose-là, qui est de se dire, est-ce qu'il peut y avoir des bipèdes aussi grands que l'on veut ? Et évidemment, les bipèdes ne peuvent pas être si grands que l'on veut, parce que plus ils sont grands, plus ils sont massifs, et la gravité de leur planète les tirant vers le bas, ils finissent par se briser sous leur propre poids. Ils n'ont même pas besoin d'être brisés sous leur propre poids, il suffit de tomber, s'ils sont trop grands, ils se brisent. Et on peut montrer que la taille maximum d'un bipède humanoïde, d'ailleurs deux bras, deux jambes, une tête, donc avec un cerveau, le truc important qui est au sommet, il ne faut pas qu'il soit trop haut, parce que sinon il se brise en tombant, il se brise en particulier le truc important. Et la taille maximum, c'est 3 mètres, à peu près 3 mètres. Et donc la taille des tables. Dans l'univers, c'est toujours 1,50 m, à peu près,
maximum.
Peut-être un maximum. Et il se trouve que tant qu'on est plus petit que 1,50 m, la tartine beurrée, elle tombe toujours du côté beurré. Et donc, la conclusion de l'article qui a étudié la chute des tartines beurrées, c'est le fait que universellement, à tout endroit de l'univers, le bipède humanoïde ne pouvant pas dépasser 3 mètres et la table étant forcément plus petite qu'un mètre 50 et donc la tartine beurrée tombera toujours sur le côté beurré, ça pose fondamentalement le problème de l'existence du mal. Parce qu'on n'y peut rien, c'est les lois de la physique qui imposent ça. Donc peut-être la méchanceté, je livre ça comme une hypothèse, peut-être la méchanceté résulte-t-elle de lois fondamentales de la physique, de la biologie, de la chimie, de je ne sais pas quoi, et on n'y peut rien.
Et si on y peut quelque chose, parce que c'est bien gentil de couvrir ça par l'irresponsabilité de la science, mais en fait, c'est l'homme qui est responsable, c'est l'être humain qui est responsable. Et s'il avait, beurré l'autre côté ?
C'est vrai, t'as raison. Il faut qu'il te beurre du côté. Mais là, du coup, c'est emmerdant. Quand ça tombe pas, ça colle sur la table tout le temps. Alors, il faut choisir entre une chute probable et une certitude de beurré du mauvais côté.
Alors, le mal n'est pas en nous, et il n'y a pas de héros méchants, il y a des héros que l'environnement rend méchants parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, quelque part. Ou parce que les circonstances font qu'ils bougent le petit doigt et paf, il y a une catastrophe, et le héros gentil dit « mais quel salopard celui-là, qu'est-ce qu'il m'a fait ?» Alors qu'en fait, non. Non.
En fait, non.
Non. Bien, alors voilà déjà une première conclusion. Le méchant n'est pas si méchant que ça.
Des fois, il n'a pas le choix.
Oui, ben, il n'a pas le choix.
Il n'a pas le choix parce que les lois de la physique le contraignent. Par exemple, Dark Vador, il a une tête de méchant. Ben, il est méchant intrinsèquement aussi. C'est méchant, pas. Mais il a une tête de méchant parce qu'il a une espèce de costume qui fait qu'il est tout noir, il a un casque pas clair. Il a l'air méchant, mais c'est l'environnement. Ouais. Ce truc-là, on lui a mis pourquoi ? Parce qu'il a été abîmé. Bon, évidemment, avant, il n'était pas très gentil non plus. Mais enfin, bon, il a été abîmé. On lui a mis ce truc-là. Et du coup, de loin, on voit que c'est un méchant. C'est comme l'empereur. D'abord, est-ce qu'il y a une façon de reconnaître les méchants ? Alors, moi, j'ai une théorie.
Excellente question.
J'ai une théorie. Alors, souvent, en science-fiction, en tout cas dans le cinéma. Non, dans le cinéma. Les méchants, c'est ceux qui ont les petits yeux méchants. Ou qui n'ont pas Dieu du tout.
Attends,
je vois. Par exemple, Alien, il n'a pas Dieu. On sent tout de suite qu'il n'est pas clair, Alien. Tu vois ? Dark Vador, par exemple, ou l'empereur, il a des petits yeux méchants, on sent qu'il est, méchant. Alors que, par exemple, E.T., il a une forme qui ressemble à rien, quoi. Enfin, si, un peu humanoïde, quand même. Mais il est gentil parce qu'il a des grands yeux bleus. Ça, c'est vachement important. Donc, voilà, c'est une théorie que je propose. C'est ceux qui ont des petits yeux méchants, ils vont être méchants.
Voilà, il n'est pas seulement astrophysicien, il nous fait aussi un petit cours d'anthropologie physique. Bravo.
Une tentative, hein, parce qu'il est tard.
Léo, non, juste sur cette théorie, moi, je suis à 100% avec toi. Mais les petits gris.
Ah oui, c'est vrai, les petits gris ont des grands yeux.
Mais est-ce qu'ils sont gentils ou méchants du coup ?
Bah, je sais pas. Il faut dire qu'ils ont une tête pas claire non plus. C'est un peu le délit de sale gueule en fait, le méchant quand même. On a
oui.
Dire.
Oui.
C'est ça. Oui. Non, t'es pas d'accord avec ça ? Faut dire qu'en même temps, dans Alien, regarde, qu'est-ce qu'on met dans Alien ? On met tous les machins qu'on n'aime pas. Qu'est-ce qu'on n'aime pas comme bestioles sur Terre ? On leur prête des intentions alors qu'on n'y peut rien. Tous les machins avec des pics, tous les machins qui font bzzz, pas clair, qui piquent et on ne sait pas trop comment se débrouiller. Alors, pourtant, c'est tout petit, quoi, une abeille, tout ça. Normalement, c'est nous les chefs, quoi. Ben, on n'est pas très à l'aise quand une abeille ou une guêpe autour de nous. Tous les machins un peu arachnoïdes, avec des pattes pas claires, des poils, des trucs qui bavent. Ça, on n'aime pas les trucs qui bavent, quoi. Ça fait peur. Et donc, ils mélangent, qui suent, qui sont des sécrétions. On mélange tous ces trucs-là qu'on n'aime pas, nous, comme humains, on en met un seul, ça fait Alien. Quoi.
C'est une question de goût, parce que si tu savais ce qui se passe dans la tête d'Alien quand il voit Sigourney Weaver.
Ah oui, mais ça, c'est un problème, c'est que on ne sait pas trop, tu sais.
Ça se voit sur sa figure tout de suite.
C'est vrai que...
Le pauvre, tout est relatif. Bon, alors, on va faire un deuxième point, tout est relatif. Donc, les méchants sont-ils toujours intelligents ? Les méchants, c'est relatif. L'intelligence, maintenant. Passons au vrai problème. L'intelligence est-elle relative ?
Bonne question. Le simple fait que j'y réfléchisse vous donne une partie de la réponse.
Tu es relativiste ?
Je suis relativement embarrassé par ta question. C'est...
Donc, revenons à Alien, puisque c'était notre deuxième exemple. Si nous avions à comparer l'intelligence de Sigourney Weaver, celle de l'alien et celle du chat.
Le chat, c'est un malin parce qu'il arrive à passer entre les gouttes.
Oui,
de toute façon,
dans les films, il faut toujours suivre le chien ou le chat, c'est celui qui s'en sort.
Mais Alien, c'est un être intelligent, mais c'est d'abord un être qui est très spécialisé, finalement. Est-ce qu'un lion est méchant, par exemple ? Évidemment, le lion, il vient de bouffer la guibole. Tu dis, bon, c'est pas cool. Tu peux dire le lion est méchant. Enfin, le lion, il obéit à son être lion. C'est un lion. Il voit un gars. Il dit bon, j'ai faim. Voilà. C'est la lionitude. Voilà. C'est la lionitude. Et Alien, il est un peu pareil. Alors évidemment, de notre point de vue, il a l'air tellement spécialisé. C'est un prédateur. Il a l'air tellement spécialisé. Il a tous ses sens, toutes ses fonctionnalités physiologiques, toute son intelligence, enfin tout son cerveau, tout ce qu'il fait, c'est lui. Et ben, elle est dirigée vers un seul but, c'est bousiller Sigourney Weaver et d'abord les copains. Sigourney Weaver, elle n'y arrive pas, il faut reconnaître. Il faut dire elle est balèze, elle. Et le chat, ils sont fous.
Bon, c'est vrai. Parce qu'il a des poils.
Ça passe mal. D'ailleurs, on peut trouver une fonction à la bave de Alien, mais c'est plus tard. Et donc, du coup, lui, voilà, c'est un être spécialisé qui fait très bien sa tâche. Et vu de loin, on peut dire qu'il est méchant parce qu'évidemment, nous, ça nous contrarie dans nos projets qui est essentiellement survivre tranquillement dans le Nostromo. Donc l'intelligence, on peut prêter de l'intelligence ou une intention particulièrement à un être qu'on est incapable de comprendre. Alien, c'est vraiment le truc complètement incompréhensible pour nous. On lui prête des intentions parce qu'on le lit avec nos yeux d'humain, avec notre cerveau d'humain, avec notre vision d'humain. Mais lui, il n'est pas méchant.
Il est armé pour sa téléologie.
Voilà, c'est et puis, c'est juste de l'instinct. D'ailleurs, c'est même pas de l'intelligence.
Malin. J'ai un flashback, il fait un truc super malin. Je ne sais pas dans lequel c'est. Hein, ils sont enfermés à deux dans l'espèce de salle sous vide.
Le même film que tu as vu.
Il y en a un qui se petit suicide pour tartiner de son sang acide le sol pour faire un trou pour pouvoir se barrer. Quoi. Enfin, pour que l'autre puisse se barrer. Et là, ils sont un peu flippés. Ils font, mais il est intelligent. En
fait. C'est vrai.
Il n'est pas que méchant.
Il peut faire
c'est
ça.
Pas qu'un programme. C'est-à-dire que
il peut faire ça par réaction à l'enfermement. Ça peut être juste une réaction.
Utilisation, c'est-à-dire c'est une façon d'utiliser des outils. C'est-à-dire quand on se demande, alors on aura Pascal Pic bientôt, dont j'aurai le plaisir de la table ronde, c'est pour vous inciter à venir écouter Monsieur Pascal Pic, brillant paléanthropologue.
Très intéressant.
Et te dire évidemment, est-ce que en plein singe, ils ont l'air un peu comme ça de lander dans la savane, faire des trucs, bon, d'accord. Mais en même temps, ils font des outils. Il y a un insecte qui les intéresse dans un trou. Le doigt est trop gros. Ils ont pas ce qu'il faut pour pulvériser l'arbre non plus. Ils n'ont pas le désintégrateur atomique ou ce qui va bien, mais en même temps, avec un petit bâton, ils trifouillent, hop, ils font quelque chose, ils récupèrent. Il y a des oiseaux qui tapotent un peu habilement. L'insecte, il dit oui, il se passe un truc, il sort, hop, et voilà, pas de chance, il se fait choper. Donc l'insecte peut dire l'oiseau est méchant. Oui, c'est probablement du point de vue de l'insecte. L'oiseau, lui, une certaine forme d'intelligence, il arrive à utiliser son environnement pour une action qu'il veut obtenir. Donc là où on voit Alien qui bricole avec son sang pour dire bon, bah, tiens, je vais utiliser mon sang pour faire un trou.
C'est il y a une autre interprétation. Il marque son territoire.
Oui, ça peut être ça. Mais là, c'est son sang, c'est pas juste.
Chacun son truc. Hein.
Oui. Donc voilà, il y a l'idée qu'on puisse utiliser son environnement pour faire quelque chose. Ça veut dire qu'on a déjà une intention, on a un but et on essaie de trouver un moyen de l'atteindre. C'est une forme d'intelligence. Et si cet objectif est désagréable pour celui qui en subit les conséquences, il va dire c'est un méchant intelligent.
On peut citer, enfin, je crois que c'était Robert Sheckley, du point de vue de la carotte, le lapin, c'est le mal.
Ah voilà, exactement.
Non, pardon. Non, mais c'est juste. C'est simplement, je me demande si narrativement dans Alien, il n'y a quand même pas une utilisation de ce ressort-là en réalité, de nous présenter le. Enfin voilà, c'est typiquement cette question-là que tu présentes, mais qui est éventuellement mise en question, nous présenter d'abord l'Alien comme une espèce de représentant absolu d'un règne animal totalement étrange et donc qui va au pur instinct. Et cette séquence en particulier, mais il y en a, dans mon souvenir, il y en a d'autres en fait où les aliens font preuve d'intelligence et où c'est y compris une surprise pour le spectateur. Quoi. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas ce que fait l'alien, et donc on se dit, voilà, il va faire quelque chose de très terrifiant, de très alienoïde, et en fait, il fait un truc qui est d'autant plus terrifiant que ça dépasse l'aliénité, l'aliénerie. Voilà.
Il est très bien. Cela dit, on pourrait effectivement imaginer un alien de base, genre... Mais c'est tout, quoi.
Oui, mais ce serait un peu moins intéressant.
Mais voilà, mais oui, non, c'est ça. En fait, est-ce que finalement, quand nous lisons ou quand nous regardons au cinéma des histoires où le méchant est intelligent, est-ce que c'est pas de notre part quelque chose qui relèverait un peu du sadisme ? Parce que voilà quelqu'un qui va faire du mal et puis bien, tu vois, il appuie avec le talon, il tourne. C'est mieux quand même. Est-ce que ça relève pas un peu du
jouissif quand même.
Une espèce de complicité de notre part, là, d'admirer les méchants intelligents.
Complètement, enfin, évidemment. On sait que pendant 2 heures à l'écran ou plus d'heures dans les pages de notre livre, effectivement, les héros, ils vont sacrément, passez-moi l'expression, ils vont sacrément en chier et on attend ça avec impatience. Il n'y a pas d'intérêt. Enfin,
Mais c'est de la solidarité envers eux de notre part ou c'est
non,
de
non,
c'est
y a,
un co-sadisme.
Une forme de perversion sans doute de la part du lecteur, du spectateur, voyeur hein, à ce moment-là, très certainement.
C'est pas très. C'est, enfin, je trouve ça un petit peu malsain quand même.
Oui.
Ouais. Non, méchant alors finalement.
Pardon.
Tous ceux-là là, qui lisent de la science-fiction.
Le lecteur.
C'est méchant,
le lecteur.
Ils sont intelligents. Vous êtes intelligent.
Justement.
Oui.
Ils sont un peu sadiques.
Justement. Parce que méchant, parce qu'intelligent du coup. Ouais. Ouais.
Oui, ou intelligent parce que méchant. Eh bien oui, non, mais c'est la chose est possible aussi. Est-ce que la méchanceté développe l'intelligence finalement? Là aussi, on peut renverser l'évolution.
J'ai un problème à vous soumettre en fait sur l'intelligence et la méchanceté parce que j'y pense à l'instant. Je me demandais si James Bond en fait ne continuait pas à être agent secret juste pour qu'à chaque fois le méchant lui explique son plan à la fin. Mais du coup, en fait, cette séquence est très embarrassante parce que c'est à la fois la démonstration de son intelligence et en même temps, c'est vraiment très con de faire ça. D'ailleurs, ça échoue. À partir du moment où il explique son plan, il montre le bouton rouge sur lequel il suffit d'appuyer, mais tu ne vas pas y arriver car tu vas te faire dévorer par ces crocodiles radioactifs.
Pendant que le chronomètre tourne.
Voilà, pendant que le chronomètre tourne. Voilà. Donc, est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose, une espèce de pierre angulaire à cette réflexion qui serait pourquoi voilà. Est-ce que le méchant peut être à la fois très intelligent et complètement stupide?
En tout cas, il ne faut pas qu'il soit pédagogue. Donc là, on a compris, il faut effectivement...
Oui.
Alors, tu parlais de Satan. Finalement, Satan, il agit de façon invisible. Enfin, je veux dire, il agit en dépit de toi, il agit par derrière. Le méchant ultime, c'est... Il fait des tas de cochonneries, des tas de méchancetés, et puis tu ne sais même pas que c'est lui qui l'a fait. Et donc, du coup, tu ne peux même pas le chercher. Parce que celui-là de James Bond, il dit « Haha, je te tiens, et tu vas bientôt mourir. Mais avant de mourir, je vais te révéler mon plan. Comme ça, tu mourras moins idiot. » Mais en fait, c'est justement le mauvais plan. Alors que le vrai intelligent méchant, bah, il dit même pas qu'il a des plans, il fait ses plans dans la... Je reprends un méchant, dans un truc qui n'est pas de la science-fiction, un truc qui n'est pas de la science-fiction, mais que vous connaissez certainement. Vous connaissez sûrement Kaiser Soze, évidemment. Ah, voilà. C'est pas de la science-fiction, mais c'est quand même un méchant.
Moi, je vois le suspect.
Hein, voilà. Ça, dans ce film, je vois le suspect. Ceux qui n'ont pas vu le film, allez le voir. Enfin, c'est vraiment un truc. J'adore ce film.
Non, c'est pas un film qu'il faut voir.
Si, mais j'allais raconter la fin, en fait.
Non, mais tu parles.
Pas raconter la
de toute
fin,
façon, tu as beau raconter la fin, on comprend rien de toute
rien,
façon.
Mais voilà. C'est un méchant vraiment génial. C'est-à-dire, c'est le gars qui fait des méchancetés. Après, il disparaît. Le mal.
Est-ce que je peux
dire. Il y a une phrase comme ça dans le film. Il y a une phrase où il dit.
Laisse-le finir.
Dieu, enfin pas Dieu, le diable, la meilleure façon qu'il a trouvé de faire ses actions, c'est de les faire sans dire que c'était lui, puis de disparaître, et on ne sait même pas s'il n'y a rien passé.
Voilà. Vas-y.
Ah, je suis content qu'on revienne à la théologie. Après ce détour. Kaiser Soze, oui, mais Kaiser Soze, c'est exactement le diable. Enfin, c'est comme ça qu'il est présenté, et c'est parce qu'il agit comme le diable. Et donc, je soumets à votre sagacité une deuxième chose, c'est est-ce que le fait de faire un méchant intelligent et visible, le méchant qui raconte son plan à la fin de James Bond, c'est pas une façon d'utiliser les histoires pour se rassurer fondamentalement? Enfin, c'est que le mal, il est par essence invisible et surtout, il est complètement con. Enfin, que le mal est un mode de fonctionnement de la société et le fait d'incarner ce mal, de dire c'est une personne, elle est extrêmement machiavélique et elle a ce pouvoir. Et donc c'est pas juste la médiocrité humaine qui fait qu'on fait des saloperies. Quoi. C'est utiliser les histoires pour une fonction fondamentale qui est d'expliquer le monde de façon rassurante.
Dire haut et fort, vous allez voir comme je suis intelligent, c'est une contradiction dès le départ. Quand on l'est, il faut jamais le dire. C'est une preuve du contraire. James Bond, Docteur No. Oui, yes, on dit Docteur No, yes, voilà. Bien, alors, revenons à Kaiser. C'est possible, ça, dans la constitution des tables rondes permet effectivement. Y a-t-il des réponses dans la salle? Tu as vu, c'est pas mieux que nous. Hein. Pourtant, oui, ils sont plus nombreux. Mais il y a une question tout à fait là-bas au fond.
Bonjour. Ma question, c'était, quand on regarde les méchants, on parlait de l'empereur, tout ça, l'empereur a une main armée Dark Vador qui est un peu plus bête que lui, censément. Et ma question, c'était, les méchants sont peut-être intelligents, mais ils ne savent pas s'entourer. Voilà, ils s'entourent de seconde main un peu bête, on voit dans certains films, dans certaines histoires comme ça, avec seulement des muscles, et c'est peut-être pour ça que ça ne marche pas.
On n'est pas secondé, mon pauvre monsieur.
Mais tout le temps, regarde Jabba. Regarde Jabba. C'est pareil, c'est un demi-méchant, Jabba. Mais il a toujours, il a des nabots autour des mecs qui ne comprennent rien. Qui sont
il pose lapés. Donc la question de la limite de l'intelligence du méchant. Alors, c'est justement de la prétention, effectivement. Il ne faut pas que l'autre leur fasse de l'ombre. Mais auquel cas, le méchant est suffisamment intelligent pour savoir qu'il va quand même en perdre à la fin. C'est.
Je me permets de reprendre juste une seconde. Quand on regarde les gentils, donc pour reprendre Star Wars, Luke Skywalker, son copain c'est Han Solo, il sait conduire un super vaisseau. Han Solo, son copain, il est poilu, mais il est musclé et tout. Et le gentil sait, lui, s'entourer. Donc c'est peut-être là toute la différence.
Mais voilà une excellente suggestion. D'ailleurs, j'ai un autre exemple qui me vient immédiatement à l'esprit, c'est Joe Dalton. Super intelligent. Super méchant, très mal entouré par ses trois frères, franchement.
Avrel, tu penses à Avrel surtout.
Merci pour cette excellente suggestion.
Oui, c'est vrai. Donc, en fait, l'intelligence, c'est donc. En fait, être intelligent, c'est pas être soi-même intelligent. C'est savoir qui sont les gars intelligents qui font le boulot à ta place.
Oui,
c'est ça.
Bah, évidemment.
Donc, quand tu es un méchant intelligent, en fait, il a suffisamment de bons aides pour faire le boulot avec lui. Mmh. Mais regardez dans. C'est quoi? C'est Moi bête et méchant? Donc, comment s'appelle ce film? C'est ça? Les. Moi moche et méchant, pas bête et méchant, excusez-moi, je n'ai pas vu, mais je sais qu'il y a des petits êtres, là, des petits guignols, là, les mignons, là, qui font des conneries en permanence, l'autre il est très mal entouré, c'est encore un exemple. Donc il n'est pas si méchant que ça, puisqu'il s'amerdoit pas grâce, enfin, grâce à ses aides. Si voilà.
Mais c'est pas un vrai méchant aussi, moi, c'est un méchant.
Ah, comment ça, c'est pas un vrai méchant?
Non, ben non, il devient mou et gentil après, il se laisse avoir par la, sa femme, les petites filles, tout ça.
C'est parce qu'il n'est pas intelligent, c'est tout.
Oui. Les limites sont. Oui.
Donc on est vraiment méchant. Que si on est vraiment intelligent, finalement, tout compte fait. Et donc, bien entouré. Parce qu'au fond, est-ce que quelqu'un qui ne sait pas s'entourer.
Est-ce que le diable est entouré? Non, revenons à Satan. Revenons aux fondamentaux.
Il y a des diables.
Revenons aux fondamentaux. Alors, Satan, demandons à Léo.
Il y a des diables.
Satan, il est bien entouré ou pas?
Eh ben, il n'a pas vraiment besoin d'être entouré, je crois. C'est parce que c'est une figure du mal qui ne nécessite pas d'extension, enfin, dans son acception originale. Après, c'était pas de ça dont je voulais parler.
Mais parle-en quand même.
Parce que la théologie, ça a bien 30 secondes quand même.
Tu lus, prenons autre chose.
Non,
lus,
j'avais trouvé un super méchant, mais je viens d'oublier.
Tu lus.
Si. Pardon, excusez-moi. Si. Non, si, après, il y a une. Alors, le problème, c'est que je vais vraiment vous spoiler l'histoire si vous la connaissez pas.
On s'en fout parce qu'il y a tellement d'histoires que tu peux bien raconter celle-là.
Mais c'est un tour, c'est assez intéressant. Je vais même faire un détour par une petite anecdote.
Allez, vas-y, vas-y.
C'est sur les complots et la méchanceté. Donc on va parler de Alan Moore. Alan Moore, dans ses œuvres de jeunesse, je crois que c'était un boulot de commande. En fait, il a fait une petite BD sur l'histoire de la CIA et en particulier la relation de la CIA à l'ingérence dans les pays d'Amérique latine et voilà, d'Amérique centrale en particulier. Et du coup, il a. Oui, et enfin voilà. Et donc, mais du coup, c'était assez intéressant. C'était un truc un peu de réflexion sur ce qu'on considère comme des complots politiques. Et en fait, sa conclusion assez rapidement, c'est Alan Moore. Donc, je pense qu'il a quand même fait pas mal de docs. C'était que le principe même de ces complots qu'on considère comme des complots, c'est juste que c'est pas intelligent. En fait, ça repose sur des réseaux d'intentions. Et il n'y a pas un mastermind, il n'y a pas un type derrière son bureau avec son téléphone rouge qui dit on va faire ça, on va faire tomber machin, on va organiser des radios au Nicaragua, etc. Donc, du coup, c'était l'idée qu'en fait derrière les structures qu'on considère comme fondamentalement maléfique ou mauvaise, en tout cas à l'échelle de la société, il n'y avait pas d'intention, en fait, il n'y avait pas d'intelligence. Quoi. Et corollaire de ça, ou peut-être en tout cas dans la suite de son œuvre, il a fait Watchmen, et le méchant de Watchmen, qui est un méchant absolument terrifiant, et un méchant qui est l'homme le plus intelligent du monde, et qui par ailleurs est l'homme le plus gentil de la Terre. Quoi. C'est que toutes les intentions du méchant dans Watchmen sont des intentions extrêmement positives. Tout son plan diabolique de méchant James Bond, c'est de sauver la planète, de sauver les humains d'eux-mêmes. Donc, à la limite, l'unique défaut dont il souffre, c'est juste d'être intelligent, en fait.
C'est pas à toi que je vais rappeler de quoi est pavé l'enfer.
Oui, c'est vrai.
Non.
Juste un rebond dans la tête, mais c'est parce que c'est assez intéressant, peut-être que ça éluciderait cette histoire de monologue du méchant de James Bond, parce que le méchant dans Watchmen fait le monologue de James Bond. Et à ce moment-là, le gentil qui est face à lui dit « Ah, mais c'est super, alors tu me montres le bouton rouge pour arrêter ?» Et il fait « Non, en fait, le plan, il a commencé il y a une demi-heure, tu crois que j'aurais commencé à te raconter mon plan, si tu pouvais l'arrêter, c'est trop tard, en fait, la fin du monde a eu lieu. » Donc, en fait, voilà, Alan Moore règle la question de la méchanceté, de l'intelligence et du monologue de James Bond. Attendons sa BD sur les aliens.
Y a-t-il une autre réponse dans la salle? Oui, je vois. Oh là là, il y a trois réponses dans la salle.
Et moi, j'ai déjà le micro.
Qui a déjà le micro?
Je vois même pas qui c'est. Le micro, le pouvoir. Ça, c'est clair.
Et je vois même pas qui c'est.
Ah, voilà, elle est là.
Ah, là-bas derrière.
Alors, moi, j'aimerais vous parler du méchant le plus malchanceux de l'histoire. Enfin, celui qui se fait battre par une petite fille et un chien en permanence, c'est le docteur Matt dans Inspecteur Gadget. Qui est quand même quelqu'un de très intelligent.
Certes.
Et qui a toujours de super plans, mais qui perd contre une petite fille de 10 ans et un chien. Et un type assez maladroit. Donc, voilà, je voulais savoir ce que vous en pensiez.
Donc c'est un méchant con.
Non, il ne peut rien. Non, des fois, il y a la loi de la physique. Je dis, vive Coyote, c'est pareil. Quoi. La loi de la physique, il n'y peut rien. Enfin, c'est une fille qui est un peu curieuse.
Il
ne
faut jamais mésestimer enfin, l'influence de l'intelligence des chiens pour combattre le mal. Enfin, Rintintin, Lassie, enfin, les chiens, Milou, non, mais méfiez-vous des chiens. Ça, c'est...
Nous enregistrons. Nous enregistrons. C'est effectivement une contribution importante.
Pardon.
Je
ne
peux pas donner la parole parce qu'en fait, a la parole celui qui a le micro, en quelque... ou celle qui a le
est-ce
micro.
Que je peux... Pardon.
Oui. Que les intervenants se lèvent et que les inopérants laissent faire ce qu'ils savent.
Alors, j'ai deux grosses réponses à proposer. Je voudrais votre avis dessus.
Très bien.
Alors, la première, c'est que les méchants sont intelligents pour justifier l'usage de la force contre eux.
C'est pervers.
Je développe ça encore. Pour là une raison, parce qu'on parlait de religion, ça tombe bien dessus. Le diable appelle le malin. En général, beaucoup de choses ont été tournées dans la religion pour un usage assez violent de la répression. Que pendant très longtemps, l'Église n'a pas du tout encouragé l'éducation générale. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une partie de là qui vient de cette diabolisation de l'intelligence? Et de la même façon, même actuellement, beaucoup de problèmes internationaux ont plutôt tendance à se résoudre par la force. Et ça peut être aussi une volonté de faire accepter ça comme une réponse naturelle. Donc ça, c'est le premier point.
Alors, juste un petit commentaire en passant. L'Église n'a effectivement pas fait ce qu'il fallait pour développer la connaissance. Mais va-t-on confondre la connaissance et l'intelligence? Mais c'est vrai que l'arbre de la connaissance, c'est l'arbre de Satan. Donc tout se tient. Allez-y.
Et... Dans la suite de ça, il y a aussi, comme on dit, le vieil adage qui est « réfléchir, c'est déjà désobéir ». Et l'autre question aussi, est-ce que, tout simplement, les méchants ne sont pas intelligents juste pour permettre aux héros d'être physiques, ce qui, au niveau des romans graphiques et des films, est beaucoup plus visuel. Il y a souvent... Sherlock Holmes, c'est vachement plus sympa à lire qu'à voir au cinéma, parce qu'au cinéma, c'est un film d'action, c'est plus un film de Sherlock Holmes. Alors que on nous montre Thor qui est quand même con comme ses pieds et qui défonce des bulles d'un coup de marteau. C'est réjouissant, ça vole pas très haut, mais c'est visuel et c'est efficace sur un support visuel, justement.
Messieurs, votre avis sur ces deux contributions?
Je suis entièrement d'accord.
J'accueille également.
Roland?
C'est vrai, je suis d'accord. C'est vrai que Thor, il est con comme son marteau, quoi. C'est vraiment affreux. Quoi.
Une autre réponse, j'en ai vu plusieurs lever la main tout à l'heure. Ah oui, ici, au premier rang, si on peut amplifier l'organe de cet individu. Ça, c'est du...
Amplifions.
C'est du Georges Pirru, en fait. Mais bon, c'est une citation. Là. Ah oui, non, il est là. Bon, alors ça va.
Juste une question. Est-ce que quand le méchant est vraiment intelligent et qu'il sait à peu près s'entourer, est-ce que c'est pas lui qui gagne à la fin? Je pense notamment à Hannibal Lecter, qui est franchement le méchant ultime.
Le méchant va-t-il gagner à la fin? Ça arrive. Est-ce qu'il gagne à la fin parce qu'il est plus intelligent que les autres méchants? Qui, eux, perdent, comme on sait en général. Non? Hein? Des méchants qui gagnent.
C'est vrai que...
Dans ces genres de littérature, les méchants gagnent rarement quand même. Mais bon, ça arrive.
Oui, il y a un autre endroit où je pense, alors je prends l'endroit où le méchant semble avoir perdu, mais en apparence, c'est dans Seven, où il fait en fait une... Il met, alors pour ceux qui n'ont pas vu le film, tant pis. Non, je ne vais pas raconter la fin. Mais il met le gentil, il le met dans une situation inextricable. C'est-à-dire, quoi que fasse le gentil, c'est un coup de loser. Soit le gentil, en gros, je ne vais pas le dire. Enfin, soit le gentil fait un truc et c'est pas satisfaisant, soit il fait un autre truc et l'opposé et c'est pas satisfaisant non plus. Et le gentil prend une décision qui est pas satisfaisante, mais voilà. Et donc là, je trouve dans Hannibal Lecter, c'est vrai, c'est un vrai méchant, il faut reconnaître. Mais celui de Seven, je trouve qu'il est vraiment incroyable parce qu'il met le gentil dans une position que quoi qu'il fasse, y compris en passant par l'élimination du méchant, il a perdu. Et donc là, c'est le coup, tu fais ce que tu veux, t'as perdu.
C'est un vrai méchant.
Et là, c'est un vrai méchant et vraiment intelligent. Enfin, du coup, qui réussit à provoquer une situation où, quel que soit... C'est comme au jeu d'échecs, finalement. Quoi que tu fasses, t'es mat. C'est un peu ça, l'idée. Et là, je pense...
Alors, on n'entend pas.
Donc, on n'entend pas. Auquel cas, est-ce que Kevin Spacey, c'est pas le méchant ultime avec House of Cards, avec Seven et avec...
C'est vrai que lui, il les accumule, il faut reconnaître comme acteur. Il les joue bien, les méchants ultimes. Ah oui, Kevin Spacey,
c'est toujours lui.
Et voilà, vous venez de raconter à la fin de...
Mais tu peux toujours, tu peux toujours raconter la fin de toute façon. Je l'ai vu 4 fois. Au début de la 4e fois, je savais toujours pas qui c'était exactement. Donc, alors, oui, d'autres réponses dans la salle, s'il vous plaît. Oui, alors voilà, lui, il a vraiment priorité maintenant.
Oui, je me demandais finalement l'intelligence des méchants. S'il perd à la fin, enfin pour revenir sur ce qui vient d'être dit, c'est peut-être aussi qu'elle est contrebalancée par d'autres défauts du méchant, et en particulier, enfin, si je prends l'exemple des méchants de James Bond, où c'était l'orgueil, finalement, qui fait qu'ils sont tellement orgueilleux qu'ils ont envie de réduire James Bond à l'impuissance, tout en lui montrant l'impossibilité d'arrêter ses plans et tout, comme pour un jeu d'échecs, où finalement, on ne peut plus rien faire... et on se retrouve mat.
Il faut tuer l'adversaire. Alors, c'est bien, ça nous rajoute un point à la liste des motivations des méchants qu'on commençait à faire tout à l'heure. Le vice, l'intérêt, l'orgueil.
Il est mégalomane. De toute façon, un bon méchant, c'est un bon mégalo. Donc, effectivement, il a ce besoin qu'on reconnaisse sa valeur, sa méchanceté, etc. Alors, avec ce paradoxe qu'effectivement, ça le pousse à une action stupide dans James Bond, mais... Parfois moins, voilà. Mais ce qui est d'ailleurs assez proche de la réalité, je veux dire, les vrais méchants du monde réel, je sais pas, il faut à un moment donné qu'ils le fassent savoir, un communiqué d'un terroriste sur Internet, enfin voilà, il y a toujours ce côté... ça m'a fait penser quand vous évoquiez tout à l'heure là, l'idée de ce principe de mal absolu, qui est celui justement, qui ne se dévoile jamais. Un beau principe, oui, mais je pense que dans la réalité, il y a toujours quelque chose qui va pousser, de toute façon, le salaud, le méchant, peu importe comment on l'appelle, à dire « Mais c'est moi qui ai fait ça, c'est moi, c'est nous, en tant qu'organisation. »
Du coup, le méchant, on parlait de Seven et des péchés, donc d'une certaine façon des péchés capitaux, et donc il est victime, il pêche 2 fois ou 3 fois, et l'un de ses péchés le précipite dans la chute, finalement. Il n'aurait qu'un seul péché, peut-être s'aérer, mais il en a un deuxième, l'orgueil, par exemple, dont on parlait, et qu'il précipite.
Mais en même temps, je pense que l'orgueil, c'est le seul, c'est le seul défaut qui qualifie Satan, en réalité. Parce que pour qu'on ait un adversaire à Dieu qui soit du même niveau, il ne peut pas se permettre d'avoir d'autres défauts. Et du coup, l'orgueil, c'est la justification logique du fait qu'il n'est pas à côté de Dieu en train de faire le boulot qu'il devrait. Au lieu d'être son alter ego, il dit non, c'est bon, je peux faire ma petite maison tout seul. Et il décide de le... Donc du coup, ça me paraît assez évident que le méchant intelligent est orgueilleux.
Oui, un méchant qui serait fondamentalement modeste, d'abord, on a du mal à imaginer la chose. Et puis bon, il n'y aurait pas d'histoire. Au fond, parce qu'un méchant modeste, il ferait rien.
Chose.
Ou alors des discrets.
Des très petites vilaines. Je renverse juste la bouteille.
Mais
qui juste. Oui. Voilà. Un peu de sel dans ton verre.
Oui. Voilà. Mais ça justifierait en rien ni des romans merveilleux, ni des films.
On n'irait pas très loin, effectivement.
On n'irait pas très loin. Bon. Ça serait. Finalement, c'est très bien que les méchants soient. Oui. Oui, je contente. Non, je vois un ici. Non ? Si, là-bas, oui. Ah, bien, encore ici, oui, très bien.
Oui, je réagis surtout par rapport à l'orgueil. Je ne pense pas vraiment, enfin, par exemple, pour rester sur l'exemple de Star Wars, qu'ils soient plus orgueilleux les méchants que les gentils. Enfin, Luke, c'est vraiment l'orgueil qui va finir par dire « Bon, Yoda, t'es sympa, mais bon, t'es un peu vieux, tu sers à rien. Moi, je me casse sauver un solo. » Et puis, il est aussi super orgueilleux, genre « Moi, je suis un chevalier, et puis bon, bah, je n'ai pas fini ma formation, c'est pas grave, j'y vais quand même. » Et finalement, sur tous les points qu'on a cités, je pense qu'on peut complètement se mettre du côté de... Je refaire tout ce film du côté de l'Empire et les voir comme des mecs super sympas. Et le seul truc qui fait que c'est des méchants, c'est qu'ils perdent à la fin. Et que du coup, comme on voit les gagnants...
Ça, c'est très bien vu, ouais. Ça.
En même temps, si t'es gentil, t'appelles pas ton truc l'étoile de la mort, que ça va, quoi.
Mais si, pourquoi pas.
Ça fait la classe, quand même, ça pète
c'est
plus.
C'est au second degré.
Attends, ça pète plus, quand même.
Très bien, oui.
Et je sais pas, finalement, c'est surtout la chance qui fait qu'ils gagnent, parce qu'ils sont plutôt tous à peu près au même niveau. Et au final, la chance, bah, ça revient un peu sur la théologie, dans le sens où le coup de bol, c'est vraiment la providence, il n'y a pas de calcul là-dedans. Et je ne crois pas quoi, qu'on puisse dire que l'empereur soit plus intelligent que Yoda, ou que ce n'est pas une question d'intelligence, ce n'est pas une question d'audace, ni d'orgueil. Donc vraiment, je pense que ouais, c'est juste le gagnant en fait, qui fait le méchant.
Quelque part, les méchants sont des gentils qui s'ignorent. On revient à la théorie de la grâce, au fond. Hein. Ouais. Tu sais, c'est pascalien, quelque part.
Mais on revient surtout à Inspecteur Gadget.
L'inspecteur Gadget est un peu pascalien dans son genre aussi. Hein. Disons-le tout net. Oui, 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 ici. Ici. Qui a le micro ? Ah, alors, non, le micro a été pris par ailleurs. Mais
je suis désolé, du coup,
pas.
J'ai le micro sur ce coup-là.
Allons-y, allons-y.
Du coup, sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur pourquoi le méchant est intelligent, pour revenir sur le sujet... Je pense qu'il y a une réponse qui est toute simple à ça. Enfin, si on lit, quand on est enfant, on voit des histoires où le méchant, bon, il est juste méchant et voilà, on est content. Quand on est un peu plus grand, enfin bon, le méchant, il est con comme une brique. J'ai envie de dire, en tant que lecteur, c'est ce que je vais dire va être assez méchant, mais on a envie de se sentir intelligent. Du coup, si on lit un truc où le méchant est con comme une brique, on va se sentir con comme une brique. Enfin, du coup, à partir de là, pourquoi le méchant est intelligent ? Je me dis juste parce que nous-mêmes, si on lit un truc où le méchant est pas intelligent, on va pas pouvoir s'identifier à quelqu'un qui pense, à quelqu'un qui se dit « Ah ben là, je suis face à quelqu'un qui a vraiment de la graine et qui va pouvoir aller loin, et du coup, je lis un truc qui est vraiment intéressant, et ça, c'est de mon niveau. » Au final, c'est une forme d'orgueil du lecteur, c'est pourquoi le méchant est intelligent.
Il y a un effet miroir, alors, quelque part.
Oui, voilà. Et en extrapolation à ça, ce que je me demandais, c'est que, du coup, on commence à voir ce méchant intelligent qui revient un petit peu partout, mais... Ça commence aussi à changer, c'est-à-dire qu'on n'a plus que des méchants intelligents, on a un peu une réponse à ça qui s'est mise en place. Bon, après, c'est une question que je pose, c'est mon point de vue. Mais est-ce qu'on ne commence pas à avoir des méchants aussi qui ont simplement une histoire tragique ? Je pense à un méchant que j'apprécie particulièrement, qui est un méchant de la série Wakfu. Bon, j'adore cette série. Où tout simplement, son but, c'est que lui, indirectement, il a causé la mort de sa famille. Et pour pouvoir effacer son erreur, il tente de créer un voyage dans le temps, de remonter dans le temps. Pour ça, il a besoin d'une quantité d'énergie phénoménale, quitte à détruire énormément de choses. Et son credo, c'est de se dire, si je réussis à parvenir à mon but, tout le mal que j'aurais fait sera effacé, toutes mes erreurs seront éteintes, et donc il n'y aura plus rien de ce que j'aurais fait n'aura été mal. Et si jamais j'échoue et que la trame de l'espace-temps se déchire, bah, il n'y aura plus personne pour dire que ça aurait été pas cool, donc tant pis. Donc du coup, est-ce qu'on n'arrive pas aussi à, en plus de l'intelligence, un méchant tragique histoire de satisfaire le lecteur ?
Chers amis, le héros freudien, le méchant freudien.
Eh bien alors, c'est très bien, parce que Satan est un héros tragique. Bim ! Enfin, la version 19e, c'était quand même vraiment ça, c'est d'imaginer que... Ouais, c'est ça, c'est le héros romantique, Satan, ouais, tout à fait. Mais en même temps, dans la description du personnage de Wakfu, très clairement, il souffre d'un problème d'égoïsme. C'est ça qui le caractérise, j'imagine. C'est de dire mon histoire personnelle mérite d'affecter l'ensemble de l'humanité.
Hein. Ça revient sur la motivation. Le méchant n'est pas méchant à 100%. Il a sa propre motivation, très égoïste la plupart du temps. On peut peut-être le lui reprocher, voilà, mais sinon, voilà, il est bien mu par une motivation, une justification. Voilà. Mauvaise, égoïste, mais une justification, effectivement. J'ai fini. Ça y est, j'avais...
T'es sûr ?
Oui.
Très bien.
Hop là, autre réponse.
Ça y est, enfin.
Oui, alors, bon, de toute façon, on est tous d'accord sur le fait que si on a méchant, c'est pour des fins morales à la base.
C'est-à-dire que le méchant, ah non, non, c'est pour des fins esthétiques.
Alien n'a pas forcément une fin morale. Mais disons que souvent, le méchant est celui qui a sombré dans le vice, dans l'orgueil, qui a sombré dans le doute, notamment, et qui est plus ou moins noyé dans son intelligence. Mais je pense que si le méchant se définit par rapport à la moralité de la chose, il faudrait qu'on ait tous une petite pensée pour les familles des milliards de nazillons qui sont morts sur l'étoile de la mort, hein, lorsqu'elle a explosé, sur les deux étoiles de la mort d'ailleurs. Parce que... Ce qu'on oublie trop souvent, c'est que les rebelles ont tué des milliards de personnes pour parvenir à leur fin. Et si on renverse la chose, est-ce qu'on ne peut pas se dire que c'est une forme d'attentat massif à des fins politiques ?
Bien sûr, c'est du terrorisme.
Est-ce qu'il n'est pas méchant, Luke Skywalker ?
Si, si, absolument.
L'Alliance, c'est un groupe terroriste, du point de vue, de toute façon.
Clairement, ouais. Après, je peux faire une incise un peu sérieuse.
Fais une incidente.
C'était juste sur un truc que disait Johan tout à l'heure. C'est sur cette idée, sur les méchants dans la vraie vie, parce que moi, je suis absolument persuadé que le mal, ouais, cette notion de mal n'est pas du tout une notion de la vraie vie. En fait. C'est clairement une notion de la fiction, et quand on pose les questions en termes moraux, enfin des narrations qui cherchent à établir une morale ou pas, on n'est pas du tout dans la vraie vie. Enfin, je pense que l'essence réelle du mal n'a absolument rien à voir avec l'essence fictive. Donc après, la question qui se pose, c'est comment ces deux univers interagissent et pourquoi on invente des histoires. Pourquoi est-ce qu'on parle de bien et de mal ? Enfin, c'est qui sont déjà des notions en soi, qui sont des pures créations culturelles et qui en plus ont des domaines d'application extrêmement fluctuants. D'où pourquoi est-ce qu'il gagne dans l'inspecteur Gadget ?
Non, c'est intéressant de dire que la fiction est le domaine d'exercice du mal. Si c'est bien ça que tu veux
dire. Non, c'est le domaine du dévoilement du mal. C'est le domaine dans lequel. Et du bien, par corollaire, c'est le domaine où on peut dire et on peut poser de façon. Et en même temps, et c'est la fiction au sens large, parce que typiquement sur cette histoire d'étoiles de la mort et de savoir qui sont les gentils, qui sont les méchants, où sont les terroristes, etc., c'est aussi quelque chose qui est très utilisé dans la narration médiatique sur le réel. Enfin, on donne des catégories de bien et de mal, mais qui, je pense que ça dupe personne. Enfin, je veux dire, personne ne pense que que le mal existe fondamentalement. Enfin, si, il y a des gens qui le pensent, mais c'est des gens qui sont inquiétants. Enfin, d'imaginer qu'il puisse y avoir des.
Si, les catégories en question, on ne les donne même pas. Elles sont présupposées. Implicitement. Oui.
Oui, oui.
Certes.
D'autres réponses ? Il y a une réponse hyper loin, me dit-on. Ah oui, c'est lui, enfin. Ouf, ça fait des heures qu'on vous attend.
Non, mais ça va compléter ce qui venait d'être dit sur les représentations de bien et de mal. Mais en fait, c'était quand il y a une première intervention sur les gentils, c'est ceux qui ont de la chance. Non, les gentils, c'est ceux qui ont gagné. C'est l'histoire est écrite par les vainqueurs, donc de toute façon, on n'a que des histoires de gentils qui ont gagné contre les méchants, puisque c'est eux qui l'ont écrit. Et ça me rappelait la nouvelle de Neil Gaiman où il met en scène. La méchante reine de Blanche-Neige qui raconte son histoire en disant personne ne la connaîtra jamais, là je suis en prison, ils vont me tuer, j'ai une vraie version de l'histoire à raconter, mais c'est pas celle que vous connaîtrez celle de Blanche-Neige.
Ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire, effectivement, oui, c'est vrai, mais bon, ouais. Mais il n'y a pas d'échappatoire à ça en fait, hein. C'est ça qui est un peu angoissant, effectivement. Il y avait une réponse hyper loin, moyenne, médiane, médianement loin. Mais c'est une réponse muette, car non amplifiée. Mais ça ne saurait tarder. Ça ne saurait tarder. Ah non, c'est encore hyper loin.
Oui, merci. Si on définit le mal comme étant ce qui s'oppose au contrat social, et si on définit l'intelligence comme étant une véritable compréhension du monde, on se dit que, si on comprend réellement le monde, comme l'a montré Darwin d'ailleurs dans La filiation de l'homme et Kropotkin dans L'entraide facteur de l'évolution, a priori, il ne peut pas y avoir de méchant intelligent. C'est une réponse, c'est pas une question. Il ne peut pas y avoir de méchant intelligent, puisque si on est réellement intelligent et qu'on comprend réellement comment doit fonctionner le monde, on ne peut pas s'opposer au contrat social.
C'est Canto Rousseauiste.
Oui, non, certes.
Non, mais cela étant, je me demande mais du coup à quel point le méchant de Watchmen est pas un twist de cette chose-là, parce que c'est précisément au nom du contrat social qui devient cet archi méchant. Mais c'est un type de méchant qui est quand même relativement rare. Rare, ouais. Enfin, j'en ai pas vu beaucoup. Des méchants comme ça, dont la principale motivation, c'est une bonté sans limite, c'est de faire le bien, voilà. Et dont l'unique défaut dans cette volonté de faire le bien, c'est l'orgueil, en fait, c'est de vouloir le bien malgré les autres.
Ouais. Eh bien, je crains que nous ayons épuisé le temps qui nous était imparti, comme on dit. Je tire une toute petite conclusion. J'ai quand même l'impression que nous sommes beaucoup plus fascinés par la méchanceté que par l'intelligence, puisque nous avons consacré beaucoup plus de temps à traiter du premier concept que du deuxième, mais après tout, qui faire ? Merci en tout cas de votre attention.